Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Le mois de septembre est là, la saison NBA approche, le DH20, aussi le DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA, un classement auquel vous pouvez participer. Vous pouvez voter pour vos 20 meilleurs joueurs NBA avec le lien dans la description. Votre classement comptera parmi celui des auditeurs. Cette année, on a l'objectif d'exploser le nombre de votes dans le DH20, donc n'hésitez pas à y participer. Les previews aussi approchent. On va vous concocter quelque chose d'intéressant cette année. Mais avant ça, aujourd'hui, on va parler de la news de la semaine dernière. C'est l'arrivée de Donovan Mitchell du côté des Cavs. Pour ce faire, avec moi, j'ai tout d'abord un habitué. C'est Tom. Comment ça va, Tom, aujourd'hui?
Ça va très bien, écoute Ben. Et toi?
Ben moi, il y a un typhon qui arrive sur la Corée dans bientôt, donc ça va, ça va de manière, ça va quoi. J'expérimente le typhon, hein, première dans ma vie. Et puis une de nos deux recrues, parce que oui, suite au recrutement Dunk Hebdo, c'est sa grande première aujourd'hui. On a avec nous Amine. Comment ça va, Amine?
Très très bien, très content et honoré de vous rejoindre.
C'est la question traditionnelle. Y a-t-il un peu de stress, Amine, pour cette première?
Un tout petit peu, mais ça va aller. J'ai confiance.
Honnêtement, il n'y en aurait pas, Tom. Ça aurait pu être vu comme de la mauvaise confiance. le prospect qui directement arrive, c'est bien. La petite dose de stress est peut-être positive, je pense. Très bien. Comme on a eu, du coup, quand on vous présente Amine, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont candidaté pour rejoindre l'équipe. J'ai été honnêtement submergé par le nombre de candidatures, donc j'ai essayé de répondre à tout le monde, ceux qui ont passé le premier ou les quelques tests qu'il y avait. J'ai essayé à chaque fois de répondre à tout le monde. Si je n'ai pas pu, si j'ai oublié quelqu'un dans la liste, je m'en excuse. Mais c'est vrai que on vous remercie parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça ait autant de succès. Je vais finir avec ma petite répétition, c'est le mois de septembre, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous pouvez, les 5 étoiles, le petit commentaire sur Apple Podcast ou à nous suivre sur YouTube. On a quelques petits problèmes d'upload sur YouTube en ce moment, quelques petits soucis avec notre logiciel d'enregistrement, mais tout devrait rentrer dans l'ordre. Comme le dirait si bien Adrien, le protocole est terminé. Petite pause et place au podcast. C'est donc la grande nouvelle de la semaine, une nouvelle qui nous a rendu service, hein, soyons honnêtes, Tom et Amine, parce que on était quand même arrivé à 2-3 jours du podcast sans grande idée de quoi parler pour ce week-end. Donc, Donovan Mitchell est arrivé aux Cavs en échange de respiration. Lauri Markkanen, Colin Sexton, Oti Agbaji, 3 premiers tours de draft non protégés, 2025, 2027, 2029, et 2 possibilités de swap toujours pour le Jazz, donc en 2026 et en 2028. Les Cavs, une destination un peu inattendue. Amine, on parlait beaucoup des Knicks, et finalement, ça a été les Cavs pour Donovan Mitchell. Quelle a été ta première réaction, du coup?
Ma première réaction, au début, je me suis dit que, donc, effectivement, on ne l'attendait pas, et que les Cavs veulent se positionner clairement, tout de suite, comme éventuellement un candidat au moins aux très, très bonnes places à l'Est. Donc, c'était un move qui peut paraître leur coûter cher, notamment en pick, mais ils ne perdent pas tant que ça de joueurs, importants en tout cas, et ils peuvent vraiment être compétitifs.
Même réaction, Tom, quand on voit le... Parce que on sait qu'il y a eu un espèce de tango un peu compliqué entre les Cavs, justement, le Jazz et les Knicks. On s'attendait quand même un peu tous à le voir arriver chez les Knicks. Moi, je ne sais plus si c'était en off ou pendant une émission. J'avais mentionné la rumeur Cleveland pour Mitchell, j'y croyais pas, honnêtement. Est-ce que tu étais surpris aussi, toi, Tom, du coup?
Très surpris, d'ailleurs. Moi, je l'ai appris dans la conversation, puisque c'est Elias qui avait publié, du coup, la capture d'écran du tweet. J'avais même demandé est-ce que c'était le vrai Wojnarowski aussi qui avait tweeté ça, tellement j'y croyais pas de base. Et il s'est avéré que c'était vrai après vérification. Donc, vraiment très surpris de voir Donovan Mitchell arriver dans cette équipe des Cavs. Surtout que, en plus, tu vois, les Cavs, on en a parlé plusieurs fois déjà depuis l'intersaison. Et je me souviens, le dernier podcast qu'on a fait, on avait parlé de ce qui se passait au niveau du poste 2, où ils avaient investi quand même pas mal de ressources pour trouver le joueur à côté de Garland et ce fameux second porteur de balle, puisque on l'a souvent répété, c'est quelque chose qui leur manquait l'année dernière, puisque lorsque Garland était sur le terrain, l'attaque fonctionnait et l'équipe était totalement viable, et lorsqu'il sortait du terrain, ben ça devenait vraiment très compliqué d'un point de vue offensif. Donc du coup, surpris mais intéressé par l'arrivée de Donovan Mitchell, qui va renforcer une équipe qui était dans le top 10 en défense mais qui était dans le bottom 10 en attaque.
Eh bien, parlons du fit, messieurs. Petit point aussi. Alors, Donovan Mitchell n'était pas c'était pas une demande de trade, mais bon, en bonne et due forme, mais on sait que Donovan Mitchell voulait partir et ça coïncidait avec le projet de reconstruction à Utah. À noter qu'encore une fois, on a un joueur qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait en termes de destination, parce que les destinations qui filtraient pour Donovan Mitchell, il n'y avait pas les Cavs à l'intérieur, donc c'est assez un élément à prendre en compte. Si on parle du fit chez les Cavs, Amine, t'en penses quoi de l'arrivée de Mitchell? Tom l'a dit, peut-être retirer un peu de responsabilité à Garland, qu'est-ce que t'en penses?
Alors effectivement, comme Tom l'a dit, en fait, ils étaient top 5 défense même, et 20e ouais. attaque l'année dernière, donc l'idée, elle est simple, c'est rajouter de l'attaque et tout en gardant sa base défensive. En gros, finalement, par rapport à l'année dernière, Donovan Mitchell, c'est Donovan Mitchell contre Lauri Markkanen, puisque Colin Sexton n'a joué que 11 matchs et que Agbaji est un rookie et qui vient d'être drafté. Et donc, remplacer Mitchell par Markkanen, ça implique le fait, l'année dernière, c'était Okoro qui jouait au poste 2. Cette année, donc on va avoir Mitchell qui va soulager clairement Garland sur le partage de la balle. Et après, Mitchell a l'habitude de jouer avec justement un meneur qui partage avec lui la gonfle, et chacun se partage les tâches avec plus gestionnaire du côté de Garland, comme l'était Conley à Utah, et un Mitchell qui va être plus un joueur d'iso, du pick and roll, pour permettre de varier les attaques. Et je pense que c'est vraiment ce dont avait besoin Cleveland là maintenant. Ils étaient beaucoup trop dépendants en attaque de Garland, et donc c'est, pour moi, c'est vraiment un très bon fit, surtout que défensivement, c'est un des endroits où c'est le moins grave d'avoir les deux petits, Garland et Mitchell, puisqu'on a une vraie déjà bonne défense avec Mobley et Jarrett Allen qui limite la casse et permettent d'éviter de défendre, qui permettent la défense en drop et qui évite à Mitchell d'être ou à Garland d'être trop exposé, en fait.
Amine l'a dit, deux petits. Il y avait Yahya Dubin, qui est un journaliste NBA assez intéressant à suivre sur Twitter, qui avait posté cet article très intéressant sur les backcourts titulaires en NBA depuis 2000-2001 avec des joueurs à 1,85, donc 6'1 ou en dessous. Et en réalité, on remarque que c'est assez rare. Alors, il y a une espèce d'accélération ces dernières années, avec notamment le duo Mitchell-Conley. Mais globalement, un backcourt titulaire avec deux joueurs à 1,85 ou en dessous, il n'y a que 11 occurrences dans l'histoire de la NBA depuis 2000-2001. Donc, ça reste un phénomène assez rare. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a dit Amine, ça peut paraître difficile défensivement parce que, dans ces 11 occurrences, il n'y a eu que deux backcourts à moins d'un 85 qui ont réussi à se classer parmi les top 10 défenses. On retrouve Mike Conley, Donovan Mitchell une année et Kyle Lowry, Fred Van Vliet. Mais Tom, est-ce que la présence Allen Mobley rassure à ce niveau-là?
Ah, moi, je trouve que ça rassure clairement. Le fait d'avoir des joueurs qui sont aussi forts à la protection de la raquette et la protection du cercle, c'est-à-dire que ça marche bien quand les deux sont là et ça marche aussi bien quand il y a un seul des deux. Donc du coup, tu peux te dire qu'ils vont trouver un moyen de compenser. C'est vrai que, notamment quand on parle de la défense du pick and roll, comme tu disais, Amine, tu parlais du drop, y a deux choses à voir dans le drop. C'est la capacité du défenseur, enfin du défenseur qui est sur les lignes extérieures à pouvoir résister au premier écran qui est porté pour pouvoir être un peu sur les talons du joueur qui avance sur le drop de façon à l'emmener sur sa mauvaise main pour que ensuite l'intérieur puisse ait plus de facilité après à contester en ouvrant le moins meilleur angle, enfin le plus mauvais angle pour l'attaquant. Donc je trouve que il y aura un travail à faire en tout cas du côté de Garland et de Donovan Mitchell de ce côté-là, parce que enfin par exemple en revisionnant en fait quelques séquences de leur défense, je me suis rendu compte que par exemple en début de saison, Sexton sur tout ce qui était point of attack defense, donc en étant par exemple le joueur impliqué sur le pick and roll on ball, je trouve que c'était plutôt intéressant ce qu'il faisait. Il a fait des choses que j'ai jamais vu de Donovan Mitchell faire, notamment tu vois, en se faisant petit pour naviguer entre les écrans, se battre sur les écrans. Je pense qu'il y a vraiment il y a le côté dureté, je pense, sur les lignes extérieures qui va être important à avoir. Mais après, tu as tellement de marge avec Mobley et Allen. Par exemple, Mobley, c'est quelqu'un qui peut te défendre trois joueurs seuls. Si par exemple tu joues avec un non-shooter et Mobley, c'est le deuxième rideau de protection, donc qui marque le gars qui est dans le coin, il défend potentiellement le drive du joueur qui va faire peut-être le playmaking sur short roll ou le ball handler qui arrive dans l'axe, il défend le mec qui est dans le coin et il défend aussi le mec qui a 45 grâce à son envergure. Donc avec un gars comme ça, tu peux te permettre d'avoir des joueurs un petit peu plus petits ailleurs parce que tu peux surcharger le terrain en nombre.
Et puis à noter, parce que je vous ai amené les gars dans cette réflexion défense, mais offensivement peut-être pour recadrer le débat, Donovan Mitchell en termes de pull-up, parmi les 22 joueurs qui en tentent le plus en NBA, à plus de 8 par match. Et déjà là, quand vous regardez la liste, il n'y a que du joueur qui... Il y en a une bonne partie qui seront pas loin du DH20 ou qui seront présents. Et parmi ces joueurs-là, il se classe 8e à l'efficiency goal percentage. On a déjà eu des grosses séquences de Donovan Mitchell sur les playoffs, etc. Pour un peu continuer ce que tu as dit, Amine, ils ont payé cher, mais c'est un élément qui coûte cher, ça, et qui leur manquait.
Oui, clairement. Clairement, l'arme du pull-up, c'était quelque chose qui leur manquait. La capacité à aller chercher les lancers francs aussi, qui est très bonne du côté de Donovan Mitchell. C'est des armes qui sont nécessaires pour être ultra bon en attaque, en fait. C'était une attaque un peu plus qu'average, même l'année dernière, Cleveland, en ajoutant Donovan Mitchell sur le poste 2, en plus qui était un poste où tu avais quelqu'un qui était négatif en attaque, avec Isaac Okoro. Donc ça change vraiment la vie d'avoir Donovan Mitchell à ce poste.
Clairement, et puis et tu parlais du pull-up, Ben.
Honneur à
l'invité.
Honneur au nouveau, vas-y Ami.
Je pensais que tu avais
terminé. C'est ma faute, j'ai marqué une pause. Ça démontre peut-être aussi un constat d'échec déjà pour l'arrivée de Caris LeVert. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est que l'idée, c'était d'avoir Caris LeVert à ce poste en définitive. Et on s'est assez vite rendu compte que c'était pas suffisant pour être meilleur.
On le savait. Vas-y, Tom. Vas-y, je
mais
te laisse enchaîner.
Rappelons que enfin le match du play-in là face à Brooklyn, c'est Rondo qui est sur le terrain aux côtés de Garland. Et bah simplement pour revenir sur ce que tu disais au pull-up, au niveau du pull-up, t'as enfin par exemple Garland qui est très fort là-dessus, il est à 40% de réussite sur le pull-up à 3 points. Mais en fait, Donovan Mitchell, il apporte du pull-up. Mais une qualité que je trouve est sous-estimée dans le jeu de Mitchell, c'est qu'il apporte aussi du catch and shoot. Notamment, on pourrait s'interroger sur le feed si Garland a la balle, ben, que ferait Donovan Mitchell qui est plus un joueur qu'on a vu à Utah dans un rôle on-ball. Mais off-ball, Donovan Mitchell, d'un point de vue de menace à 3 points, c'est quelqu'un qui est assez fort, puisque en dehors de sa saison dernière, depuis qu'il est dans la ligue, il a toujours été à plus de 40% à 3 points sur environ 3 tentatives de catch and shoot par match. Donc l'an dernier, c'est peut-être la saison qui est plus l'aberration, puisqu'il était aux alentours de 35-36%. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a toujours été au-dessus des 40% sur le catch and shoot à 3 points. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen d'être une menace. Et comme tu disais, Amine, quand tu vois par rapport à Okoro, il n'y a pas photo. Par rapport à Okoro, il n'y a vraiment pas photo.
Puis c'est assez simple d'imaginer un Garland avec le ballon à Allen ou à Mobley qui pose l'écran avec un Mitchell prêt à attendre à recevoir le catch and shoot. C'est une action qui n'est pas très difficile à imaginer et qui aurait beaucoup d'impact. Peut-être avancer une petite question que moi j'ai, les gars, avant qu'on soulève la grande question de qui à côté du quatuor Allen, Mobley, Mitchell, Garland, du coup, c'est peut-être sur la responsabilisation d'Evan Mobley, parce que je trouve que, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, ça lui met assez beaucoup de pression sur sa prestation offensive, ses capacités offensives, je trouve. Parce que pour que cette équipe trouve le plein potentiel, il faut que Mobley, peut-être pas cette saison, mais d'ici un an et demi, deux ans, développe un petit shoot à 5 mètres. Parce que autrement, en termes de pleine puissance offensive, s'il continue comme il a fait pendant sa saison rookie à prendre 66% de ses tirs dans la peinture, même si tu as deux très très bons arrières, il y a une limitation au niveau de l'attaque. T'en penses quoi, Amine ?
J'en pense que je suis totalement d'accord et qu'il va falloir qu'il développe donc ce petit shoot au moins à 5 mètres, mais aussi même qu'il améliore sa réussite au cercle en vérité, parce qu'il a pris, beaucoup de shoot dans la peinture, mais ses pourcentages ne sont pas terribles en vérité. On est sur des bonnes décisions souvent et tout, mais il est encore un peu soft dans la peinture. Donc peut-être même avant de développer ce petit shoot, déjà être plus efficace dans la peinture, et en même temps essayer de développer ce petit shoot, comme tu dis, plus sur du moyen terme, peut-être pas cette saison, mais en tout cas ça va être important, notamment pour le spacing de toute manière, parce que c'est pas Jarrett Allen qui va le développer, ce petit shoot. En tout cas, Mobley en a plus les capacités, et Mobley est central dans ce move. Pour moi, c'est pour dire on croit vraiment en Mobley. Bien sûr, Garland, on a vu ce que ça donnait, mais on croit vraiment en Mobley, en son développement, pour qu'il soit même le troisième joueur offensif de ce trio.
Tom, par rapport à la responsabilisation de Mobley, t'en penses quoi ?
Ben, moi, à l'inverse de vous, je trouve que le fait d'avoir Mitchell, ça lui permet de prendre plus de temps en fait dans son développement offensif, parce que en fait la traction arrière va vraiment, je pense, beaucoup monopoliser. Alors je pense que oui, je pense que la façon dont il va être la façon dont les joueurs vont être divisés pour jouer avec lui. Du coup, dans ses combinaisons, il y aura, par exemple, je pense qu'il aura un style de jeu, par exemple, avec Donovan Mitchell, un style de jeu avec Garland, un style de jeu avec Rubio, un style de jeu avec Levert, si jamais celui-ci est là. Mais après, je trouve que les limitations, peut-être, qu'on a vues de Mobley, c'est un peu dû au coaching de JB Bickerstaff, qui avait fait à peu près la même chose, je me souviens, avec Jaren Jackson Jr. À ses débuts à Memphis, quand il était aux côtés de Mark Gasol, où il était vraiment dans un rôle très simple offensivement. Et c'est peut-être aussi le manque de créativité de ce coach-là, en fait, pour utiliser des joueurs qui sont pas anachroniques, quoi. Des joueurs qui ont un skill set et des compétences qu'il n'a pas l'habitude de voir, quoi. Et du coup, peut-être que ça va prendre un peu de temps pour développer, ça va lui prendre un peu de temps pour développer des sets qui vont mettre en valeur la créativité de Mobley. Mais au contraire, je trouve que du coup, l'arrivée de Mitchell va un peu lui mettre moins la pression sur le besoin de volume et de mettre des points offensivement.
Ça lui met peut-être moins la pression, lui, mais collectivement et même pour sublimer les arrières, ils auront besoin de ça, en fait. C'est peut-être la manière, on voit le problème différemment, en fait, je pense. C'est Mobley, personnellement, Mobley aura moins de responsabilités, mais pour l'équipe et pour les arrières, peut-être que ça sera plus important. C'est vrai. Et à noter, dernier petit point, les turnovers aussi. C'est une équipe qui en perd beaucoup. Mitchell en perd beaucoup. Mais Amine, je suis obligé de te lancer sur cette question parce que tu l'as mis dans notre trame et elle est assez simple. On met qui, du coup, à côté? Parce qu'on a quatre bons joueurs, là. Mais qui est le cinquième?
La question se pose forcément, parce que celui qui était titulaire l'année dernière au poste 3, c'était Lauri Markkanen. Donc il n'est plus là. L'idée qu'on se fait facilement, c'est de dire, bon, Donovan Mitchell arrive sur le poste 2, on décale Isaac Okoro au poste 3. Maintenant, Isaac Okoro, il est vraiment undersized. On l'a dit, offensivement, il est négatif. Il n'est même pas average, il est vraiment négatif. Et pour moi, ce n'est pas une solution. En tout cas, à mon avis, c'est pas une solution. Je pense que peut-être Bickerstaff va la tenter, mais en tout cas, c'est pas une solution. Il y a d'autres joueurs, par contre, qui sont dans l'effectif des Cavs aujourd'hui et qui sont intéressants. Dean Wade, qui jouait 20 minutes par match la saison dernière, qui était vraiment le backup de Lauri Markkanen. C'est un très bon défenseur. Il shoot aux alentours de 35-36% sur ses deux premières carrières NBA à 3 points. Donc, il t'apporte du spacing. Pour moi, même si peut-être qu'il ne pourra pas jouer le temps d'un titulaire, pour moi, ça me semble presque évident que c'est lui le remplaçant de Markkanen, surtout qu'il fait 6'9", donc ça conserve cette idée de tall ball au niveau des forwards pour compenser la petite taille du back court. Donc pour moi, ça me paraît évident. T'as d'autres joueurs comme Lamar Stevens qui a pu se jouer au poste 4, qui est plus petit mais qui est plus tanké et qui est intéressant aussi à mettre sur les postes de forward. Il y a toujours, on a beaucoup parlé de Cedi Osman, moi je suis pas sûr qu'il a encore un avenir aux Cavs. J'en ai même vu certains dire que Caris LeVert titulaire au poste 3, moi ça me paraît évident non. Et je vois même plutôt Caris LeVert être un asset, là c'est sa dernière année de contrat, pour peut-être aller chercher un 3 justement. Je sais pas ce qu'en pense Tom là-dessus.
Bah moi franchement je partirais sur Dinwiddie, hein, un peu pour les raisons que t'as dit. Je pense que c'est lui qui est plus je pense que non seulement l'an dernier par exemple quand Markkanen était absent, c'est lui qui avait les minutes, puisque quand tu regardes les joueurs qui ont commencé des matchs au Cavs l'an dernier, c'est lui qui a le sixième nombre de matchs commencés, donc en dehors du 5 majeur c'est lui qui commence le plus de matchs. Après je trouve que il opère un peu dans les mêmes zones que Markkanen, puisque plus que la réussite que tu as dans ces zones-là, c'est aussi où est-ce que tu arrives à te placer sur le terrain où tu peux avoir un impact. Et je pense que c'est lui qui, même s'il est beaucoup moins dynamique, balle en main, et c'est un joueur qui est moins, enfin, qui utilise moins sa physicalité, en tout cas que Markkanen, notamment sur tout ce qui va être post-up, les high-low, des choses comme ça, c'est pas son type de jeu, puisque c'est plus un joueur qui a un profil d'extérieur que Markkanen, qui avait plus un profil d'intérieur, même si c'est un intérieur un peu shooter, on va dire. Je trouve que il a l'avantage de la taille, je trouve que c'est aussi un bon facilitateur offensif, puisque ça manque de passing en vrai. Quand cette équipe des Cavs là, ça manque un peu de passing. Donc avec lui, je pense que ça peut faire l'affaire, un peu à la manière de Joe Ingles aux Cavs. Je pense que il est aussi, moi j'ai trouvé pas mal sur tout ce qui était attaque de close-out, qu'il avait pas peur de shooter. Donc je trouve que c'est lui aujourd'hui dans le complément. Je vais pas dire parfait, mais le mieux adapté à ce 4 majeur là, je pense.
Alors. Pour moi, il y a deux questions. Ce que je ferais, je suis d'accord avec vous, Dinwiddie. Ce qu'ils vont faire, je pense qu'il y a une possibilité qu'ils mettent quand même Okoro, parce que le problème, si tu rajoutes Dinwiddie à côté, vous l'avez dit, il est assez grand pour un ailier, tu obliges Mitchell et Garland, un des deux va devoir défendre le meilleur joueur de la ligne arrière en face, tous les soirs. Alors que si tu mets Okoro sur le 3, tu peux te dire, bon bah Okoro, parmi les 3 joueurs les plus petits en face, on le missionne sur un joueur et il peut, et les deux autres, on les cache entre guillemets. Pour moi, c'est des réflexions de saison régulière. Hein. Mm-hmm. Sur des playoffs, ils feront pas ça. Mais sur une saison régulière, ils peuvent le faire.
Mais en vrai, qui défend, parce que je pense que ça c'est peut-être un starting five qui risque d'être adaptable en fonction des forces de l'équipe adverse. Parce que si par exemple le moteur offensif adverse, il est à l'aile, et tu commences avec Okoro, ça sert à rien.
Oui, mais tu vois, Tom, dans la plupart des équipes qui vont jouer, il y aura, enfin, on en parlera peut-être plus tard après dans les trades qui ont été faits. Il y a des All-Stars dans la plupart des backcourt NBA, donc tu peux pas demander à Garland et à, ils vont s'adapter, je suis d'accord, mais tu peux pas demander à Garland et à Mitchell de faire la mission sur eux tout le temps.
Oui, mais parce au moins un.
Je veux bien que t'acceptes, et je suis d'accord avec vous hein, sur le fait que leur assise défensive leur permet, mais tu vas pas dire bon bah ok on accepte de se faire blow by 45 fois par match. Enfin, mais je suis d'accord. Personne pour une petite pièce sur l'ami Caris LeVert, Amin Tom, personne. Non.
Non.
Personne non, non, non non
non non. Ok. Sachant, j'avais noté quand même la stat. Caris LeVert qui n'est pas un bon joueur de catch and shoot, bizarrement avait fait une bonne vingtaine de matchs en catch and shoot avec les Cavs. Alors, est-ce que ça va se matérialiser? Parce qu'on est d'accord pour clore cette partie terrain. Ce qu'on veut avec ce poste 3, c'est un mec qui ne touche pas le ballon, qui globalement reste dans le corner et est capable d'être missionné en défense, sachant qu'on n'aura pas un vrai 3&D parce qu'ils n'ont pas les assets pour ça.
Dans l'idéal, Tom,
moyennement d'accord, j'ai l'impression.
Dans l'idéal, un facilitateur, quand même. Un mec qui a du passing, comme l'a dit Tom, un Joe Ingles-like, ça serait idéal. Mais le shoot sera très important aussi pour des problématiques de spacing. Donc, un 3&D, un bon 3&D intelligent.
Ouais. C'est ça, ouais. Il te faut quand même une valve de décompression dans ce 5-là qui est un peu taillé. Parce que, alors oui, je pense que, enfin, par exemple, Garland et Mitchell, ils vont ouvrir des brèches énormes sur la défense. Tu vois, juste un truc tout con, tu vois, les fakes de dribble end-off. Tu vois, Garland, c'est un des meneurs de jeu qui n'est pas obligé de monter la balle tout le temps. Et puis, quand il monte pas la balle, c'est quelqu'un qui reste actif quand même quand il a pas la balle. Ou sinon, il peut arriver, monter la balle, lâcher la balle en début de possession et faire confiance au système pour que le ballon lui revienne quand il y aura déjà un décalage de créer. Mais par exemple, je vois des trucs tout con, tu vois, par exemple, les fakes de dribble end-off entre les deux, où t'as par exemple Garland qui remonte, Mitchell remonte la balle, il passe la ligne, t'as Garland qui arrive depuis un coin pour être servi, et puis au lieu de prendre la balle sur le dribble end-off, bah, t'as Mitchell qui part à droite et qui va directement au panier. Tu vois, c'est des trucs que j'imagine, mais il faudrait que quelqu'un puisse sanctionner après dans le coin pour par rapport à la rotation qui va se faire au niveau de la raquette quand Donovan Mitchell va arriver. Tu vois. Donc là, c'est des trucs, je pense, tout simple. Et c'est là que je me dis qu'il faut quelqu'un qui puisse attaquer des close-out, quelqu'un qui puisse bouger, quelqu'un qui puisse sanctionner. Et je pense que Dean Wade, c'est la personne qui, aujourd'hui, dans l'effectif des Cavs, qui est le plus à même de faire ça.
C'est ça, parce que le profil du mec qui fait beaucoup de choses, on est d'accord, ils peuvent pas se l'offrir. C'est un peu ça la difficulté pour eux. Alors, on a fait une bonne vingtaine de minutes sur le fit terrain. Parlons des Cavs dans la hiérarchie à l'Est, maintenant. Amine, si je dis que les Cavs sont passés d'une équipe en lutte pour le play-in à une équipe qui peut espérer l'avantage du terrain, est-ce que tu serais d'accord ou pas ?
Espérer l'avantage du terrain, oui. L'avoir, ce sera une autre question. Mais en tout cas, ils rentrent, on va dire, dans un top 5 à l'Est de potentiel. Il y a des équipes qui sont clairement mieux armées encore aujourd'hui, notamment Milwaukee, dont Cleveland est très loin, mais Cleveland est dans une situation où ils sont en train de construire, où ils veulent y aller. Je pense que l'idée, là, tout de suite, c'est de ne pas être en play-in, justement. Qu'à partir du moment où ils sont top 6 à l'Est, ça sera assez. Moi, je les vois plus top 6 globalement que top 4 aller chercher l'avantage du terrain. Je pense que l'avantage du terrain à l'Est, ça sera quand même pas si évident que ça. Mais être candidat, oui. Je pense qu'ils sont candidats. Quand tu rajoutes un joueur comme Donovan Mitchell, qui est un vrai initiateur de grande qualité, un des meilleurs qu'il y a dans la ligue, que tu l'ajoutes à un effectif très bon en défense, on a quand même cette idée que ce que va apporter Mitchell en attaque, l'idée c'est d'avoir, on a la top 5 défense, top 20 attaque, l'idée c'est peut-être de perdre un petit peu en défense, d'aller sur du top 10, top 10, et d'être vraiment une équipe compétitive partout en fait.
Top 10, top 10, Tom, l'avantage du terrain est pas loin, hein, si t'es top 10, top 10.
Ouais, c'est ça. Si t'es top 10, top 10, effectivement, l'avantage du terrain n'est pas loin. Moi, je dirais qu'il se classe clair. Alors, comme Amine l'a dit, hein, je pense qu'il y a peut-être Boston et Milwaukee si on imagine le plafond de l'équipe. Si on imagine le plafond, parce qu'on sait qu'il y a une grosse différence entre le jeu de saison régulière et le jeu de play-off. Et les résultats que tu as en saison régulière ne sont pas forcément ceux que tu auras en play-off. Je trouve que pour la saison régulière, je serais pas surpris. Enfin, pour la saison régulière, moi, je les mettrais un peu dans le troisième tiers. Par exemple, tu as le premier tiers, par exemple, avec deux équipes, Boston et Milwaukee. Tu as le troisième tiers avec Philly tout seul. Enfin, pour moi, en tout cas, tu as le troisième tiers avec Philly tout seul, qui peut être soit plus haut, soit plus bas en fonction de certains barbus. Et tu as le tiers du dessous qui commencerait du coup par les Cavs et tu aurais Toronto et Atlanta. Toronto, je les mettrais là tout simplement parce qu'en fait, c'est une équipe de plancher. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, comme elle mise beaucoup sur la défense et qui joue toujours dur, qui va à chaque fois gratter des victoires où tu l'attends pas. Et en fait, quand la saison se termine, tu dis « Ah bah tiens, ils ont 45 wins. » Ils ont 46 wins. Ou t'es un peu surpris par ça. Donc, ils ont peut-être pas le plafond offensif, mais ils ont le plancher défensif qui leur permet d'avoir des bons bilans en saison régulière. Mais je trouve que, par exemple, même des équipes comme Miami, tu vois, Miami qui a surpris, j'y mettrais à peu près à ce niveau-là, quoi. Le troisième chapeau derrière les trois premiers.
J'ai tendance à mettre peut-être les Cavs un peu plus haut que Tom. Alors, moi, Miami, j'ai tendance, on en a déjà parlé, à les mettre haut sur le simple fait de leur division, en fait. Ils ont trois équipes que je vois pas. Ils ont deux équipes que je vois pas en playoff et trois que je vois pas en play-in. Et ils ont Atlanta qui est peut-être dans un chapeau un peu en dessous parmi les candidats au playoff play-in. Donc ça fait beaucoup de victoires en fait quand tu commences à faire des maths. C'est pour ça que j'ai un peu peur des Raptors aussi, parce que les Raptors sont dans une division où il y a Celtics, Sixers. il y a l'énigme Nets. Ça fait trois équipes où tu sais
ça
pas
fait
trop
beaucoup,
si tu...
Ouais.
Ça fait beaucoup, en fait, quand quatre équipes de la même division. Je donnerais peut-être cet avantage aux Cavs, surtout que ce point faible des Cavs, qu'on l'a dit, le poste 3, qui pour moi, c'est pas la discussion du jour, sera totalement rédhibitoire en playoff, parce que quand tu as dans une conférence avec Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum et Jimmy Butler, tu peux pas arriver avec un déficit au poste 3. Ça sera, mais sur de la saison régulière, pour moi, ça peut être un assez bon équilibre. Donc, ils sont candidats, je pense, à l'avantage du terrain. Je pense clairement. Est-ce qu'on peut dire, les gars, avant de basculer sur la partie un peu plus peut-être théorique, analyse plus globale, est-ce que ces équipes, Tom et Amine, dont tu as un peu parlé du chapeau un peu plus en dessous, sont pas un peu les grandes perdantes? Parce que pour elles, le play-in se rapproche, en fait, mine de rien. C'est-à-dire que là, Bucks, Celtics, on les met à peu près au-dessus. On est d'accord, il y a une énigme autour des Sixers. On peut rajouter à ce groupe-là Miami. On a les Cavs, ça fait 5. On a les Nets qui flottent quelque part, on ne sait pas trop où. Mais déjà là, on est à 6, en fait. C'est terminé.
Ouais.
Donc, est-ce que vous ne les voyez pas un peu comme perdants? C'était pas dans la trame, je suis désolé, les gars. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que ce n'est pas typiquement Bulls, Raptors, un peu Atlanta, des perdants un peu de ce deal-là?
Oui, oui.
Oui.
Les Bulls en plus, avec la nouvelle récente de Lonzo Ball qui est encore blessé, c'est surtout ça. Parce que les Bulls, ils auraient pu ne pas être si inquiets que ça si Lonzo n'était pas toujours blessé, de l'incertitude sur le fait qu'il allait jouer. Parce qu'on commençait à avoir une équipe qui, pour moi, peut autant rivaliser que les Cavs pour candidater à l'avantage du terrain. Surtout qu'on pouvait ajouter Patrick Williams cette année qui revenait de blessure, ce genre de choses. Mais effectivement, là aujourd'hui, Bulls, Toronto, disons qu'on est sur un entre-deux qui n'est pas si évident à gérer. Atlanta également. Ils font des moves en plus, notamment Atlanta a fait un move, mais est-ce que ce move est le plus intelligent pour retourner en play-off directement et défendre son avantage? C'est compliqué à dire, mais ça paraît en tout cas. Cleveland, je pense, a vraiment embêté beaucoup de franchises, y compris même celles un peu au-dessus, comme Philly, qui doit se dire qu'il faut peut-être faire un petit peu plus pour être sûr de faire la grosse saison.
D'accord avec ça, Tom. C'est vrai que même pour ces équipes-là, comme le dit Amine, tu n'as pas le droit de dormir pendant la saison régulière, parce qu'on l'a déjà répété, historiquement, si tu n'as pas l'avantage du terrain, c'est assez rare d'aller rien qu'en finale de conf.
Après, le move des Cavs, tu vois, là où c'est intéressant, c'est que, et là où c'est un peu dommage pour les équipes qui sont un petit peu plus en dessous, c'est que le move des Cavs, c'est pas fait pour une saison. C'est-à-dire que ils ont des joueurs qui sont censés progresser, t'as une progression organique. Tu sais, si ça se trouve, à la fin de la saison, si par exemple, dans un an, on pourrait avoir les Cavs qui seraient, par exemple, ce qui était Utah à un moment, par exemple. C'est-à-dire, un groupe de jeunes joueurs, tu vois, par exemple, c'est pas exclu que tu vois les Cavs fassent une saison un peu comme a fait Memphis l'an dernier, tu vois, c'est quelque chose qui est pas exclu. Et si ça se trouve, là où les Cavs sont aujourd'hui par rapport à l'âge de leurs joueurs et le niveau qu'ils ont, ben au final peut-être qu'à la fin de saison, tu vois, aujourd'hui on peut dire que sur leurs quatre positions majeures, ils ont un joueur qui est peut-être top 10 à sa position, on peut dire ça peut-être, si ça se trouve.
Ouais,
tu vois, si ça se trouve, plutôt qu'avoir 4 joueurs top 10, ils peuvent avoir peut-être, ok, 2 top 10, mais peut-être 2 top 5 ou un truc comme ça. Tu vois?
Bah, c'est...
Donc, ça aussi, c'est des choses.
Vas-y, Tom, vas-y.
Ouais, ça aussi, sont des choses qui ont un impact sur les équipes qui sont perdantes, puisque on va. Les autres équipes qui sont en bas, en dehors peut-être de Toronto, qui est un peu dans un entre-deux, mais qui a quand même des assets. Le truc, c'est que, par exemple, Chicago, ils ont déjà des picks envoyés ailleurs. Donc, ils ont moins de possibilités aussi de se renforcer en cours de saison.
C'est vrai que Prime Donovan Mitchell, si on regarde ses meilleurs paires dans un DH20, c'est un mec qui peut s'approcher du top 5 à l'arrière. En tout cas, enfin, quelle que soit la position qu'on lui donne, sachant que ça n'a plus trop d'intérêt de parler derrière, bref. Enfin, en tout cas, dans le poste 2, comme vous l'avez bien dit dans un podcast récemment, Tom avec Adrien et Madiane qu'on salue, justement, où le poste en évolution. Et Mobley, alors, toujours se méfier, mais les premiers retours qu'on a sur l'été, alors c'est l'été, c'est la période des fantasmes. Au niveau du shoot, justement, on en parlait, il y a quelques rapports qui sont assez intéressants. on en a parlé, je vais lancer Amine là-dessus. Honneur à celui qui fête sa première. Tom, tu voulais en parler, mais je vais lancer Amine dessus. Les mouvements des équipes que j'ai intitulées dans la trame moyenne, c'est-à-dire que Atlanta, les Wolves et donc les Cavs, Atlanta, Minnesota, Cleveland, ont été des acteurs de cette intersaison parce qu'ils ont réalisé les gros moves. Et quand on compare ces moves-là, du coup, Amine, qu'est-ce qui te plaît le plus? Parce que j'ai l'impression, tu l'annonçais déjà un petit peu, que à la lumière du move de Mitchell, celui de DeJounte Murray du côté d'Atlanta te paraît un peu moins inspiré, du coup.
Oui, et surtout, en fait, celui de Cleveland me paraît beaucoup plus cohérent, beaucoup plus réfléchi, dans le sens où à Cleveland, tu as commencé par les fondations, à savoir, tu as commencé par construire une défense, ce qui est plus difficile en vérité à construire dans une équipe NBA. Tu as commencé par construire une défense et tu y ajoutes de l'attaque. Aujourd'hui, Minnesota et Atlanta, ils ont une attaque, très clairement, avec des joueurs très très forts offensivement, et ils veulent se construire une défense. Alors Minnesota, au moins, ils ajoutent un joueur vraiment très impactant en défense, au moins ça de fait, Rudy Gobert. Atlanta, mettre un joueur bon défensivement sur le back court, je suis pas sûr, je suis convaincu que ça va pas régler les problèmes défensifs de Atlanta en vérité. Donc le move de Cleveland me paraît plus intelligent, plus sur une construction cohérente. Et on est sur quatre jeunes joueurs de moins de 26 ans qui vont porter l'équipe et qui sont sous contrat minimum jusqu'en 2025 avec une player option pour Mitchell. Donc pour moi, le move de Cleveland, en fait, il est presque parfait. En fait, j'ai eu quelques petites réticences au début, et puis en analysant un peu mieux, je trouve que c'est un move hyper hyper intelligent, sachant qu'Atlanta a lâché beaucoup pour un joueur qui est loin du niveau de Donovan Mitchell. C'est pas faire offense à DeJounte Murray pour dire que c'est des joueurs qui sont pas comparables en vérité. C'est un très bon joueur, DeJounte, mais c'est pas un joueur qui va te porter une équipe. Mini, ça va dépendre aussi de comment est-ce que Towns peut vraiment jouer 4 à côté de Rudy Gobert. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ça, on peut pas en être sûr à 100%. Est-ce que la défense va être bonne même avec Gobert? On a bien vu que Gobert à Utah, entouré de 4 plots, c'était quand même compliqué.
C'est plus au niveau de la projection, du coup, pour toi, Amine. C'est ça, oui. Où tu te dis la projection des Cavs est un peu plus facile à faire que celle des autres.
C'est ça.
Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Toi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Amine, notamment sur... Je vais te faire une question qui n'est pas une question, Tom, mais qui est plus une observation, je t'amènerai à réagir. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt que la comparaison Atlanta... Minnesota, Cleveland, c'est vraiment la comparaison Atlanta-Cleveland. Parce que pour moi, ils partent du même problème. On a un meneur maestro undersized, donc petite taille, qui est un magnifique moteur offensif. Qu'est-ce qu'on fait? Et globalement, dans les moves de ces dernières années, pour moi, autant du point de vue intérieur, ces deux équipes font le même pari. Et c'est logique, elles se disent, il faut des intérieurs défensifs parce qu'on peut pas faire autrement. Ce qui explique les drafts récents des Hawks, etc. Par contre, au niveau du poste 2 spécifiquement, ils n'ont pas du tout la même logique. Avec le move de Levert, notamment, avec le move de Mitchell, les Cavs sont dans une logique, il nous faut un très fort scoreur à côté de Darius Garland. Là où les Hawks, quand ils ramènent un Chris Dunn, quand ils ramènent un DeJounte Murray, ils sont plus dans une logique. Eh bien, la suite pour nous, c'est de mettre comme l'a dit Amine, un bon défenseur pour essayer de solutionner ça. Du coup, dans ces deux philosophies que j'ai l'impression de voir émerger, quelle est la plus logique selon toi au vu des trades qui ont été faits, Tom?
En fait, je sais pas si on peut vraiment comparer ça parce qu'en fait, les deux sont arrivés sur le marché avec des budgets différents. Les Cavs, je pense que si Donovan Mitchell, si le trade de Gobert, par exemple, se fait avant le trade de DeJounte Murray, je pense que les Hawks font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont tenter un all-in sur Mitchell. C'est juste que dans la temporalité, ils ont fait leur move au moment où certains joueurs n'étaient pas disponibles sur le marché, je pense. Donc, je pense que c'est plus ça que, je pense que c'est plus vraiment leur côté timing que leur propre choix. Même si c'est vrai qu'il y a eu des antécédents, notamment avec Dylan Wright aussi, que tu as passé parmi la liste, ou que les fans des Hawks voyaient comme un dieu à la fin de la saison. Mais je pense que tu as aussi l'espoir, en fait, l'espoir de Trae Young off-ball. Voilà, je pense que c'est aussi ça, tu vois. L'espoir de Trae Young off-ball avec un autre playmakers, plutôt des défenseurs, et on l'a vu sur leur draft, hein, ils sont allés chercher des profils ailiers qui défendent, là où, par exemple, les Cavs sont allés chercher Donovan Mitchell, par exemple, ou même à la draft, ils étaient allés chercher quelqu'un qui pouvait shooter. Donc, je pense que c'est vrai que pour moi, les approches sont quand même différentes. Alors, je réponds pas totalement à ta question, mais pour moi, les approches sont quand même différentes.
La question n'était pas bonne, donc vas-y, Tom.
Non, c'est plus la temporalité, en fait, qui a fait que les Hawks font ce choix-là et le budget qu'ils avaient à dépenser. Parce que, voilà, enfin, faut pas se leurrer. À Atlanta, il y a la situation de John Collins qui est un peu particulière. T'as la situation aussi de Clint Capela qui est un peu particulière aussi par rapport à Okongwu. T'as DeAndre Hunter qui normalement pourrait être, enfin, la vraie équipe d'Atlanta, on sait pas ce que c'est. Là où je pense que les Cavs, leur vraie équipe, ils savent ce que c'est, ils connaissent leur manque. Tu vois, parce que quand tu regardes les Cavs, si tu prends l'équipe avant l'arrivée de Donovan Mitchell, ils avaient deux All-Stars et le deuxième rookie de l'année. Donc, ils ont déjà la base. Alors que quand tu prends Atlanta, il y a juste Trae Young, en vrai. Quand, à l'échelle de la ligue, il y a juste Trae Young qui est All-Star et après, tu as des bons role-players à côté. Donc, pour moi, ils ne partent pas du même endroit. Donc, du coup, la réponse qu'ils ont amenée est différente.
Est-ce que dans la, la temporalité, justement, dont tu parles, est-ce que c'était pas Atlanta qui devait forcer pour Gobert finalement, histoire d'avoir vraiment ce mec qui sécurise totalement ta raquette et qui permet de ne pas jouer. On dirait qu'Atlanta veut jouer du switch avec Trae Young, c'est pas possible. Donc il fallait un super défenseur de drop, mettre tout sur Gobert, quitte à perdre par exemple. Je pense qu'avec un Kongu qui est très prometteur, des choses comme ça, tu pouvais les mettre dans des packages et plutôt que de faire des gens téméraires. Héliocentrisme offensif avec Trae Young, héliocentrisme défensif avec Gobert.
Mais tu vois, après, ils ne sont pas les seuls à faire comme ça. Regarde les Blazers. Les Blazers se sont dit qu'ils vont switcher. Ils ont tout changé, sauf la défense du point d'attaque et l'angle défensif. Ils ne vont pas switcher.
Ah oui.
Ils ne vont pas switcher. Bah oui.
puis, tu vois, tu l'as bien fait, t'as bien fait de le citer, Amine. Au Congo, le front office, les fans des Hawks sont très, très fans de lui. Ça reste un haut choix de draft qui n'a pas encore eu sa chance. Et n'oublions pas que Trevi Schlenk est un mec qui vient de l'école Warriors Draft. Échanger un paquet de ces jeunes prometteurs dans un trade pour un joueur déjà confirmé. Alors oui, échanger des choix de draft et des joueurs que tu as draftés au niveau affectif, c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il y avait peut-être de ça. Avant d'enchaîner sur justement ces équipes qui parient très vite sur leur jeune potentiel, les gars, peut-on juste revenir, parce qu'on a évoqué ces trois équipes, les valeurs échangées, quand même, on reste quand même assez dingue. Ce même Yaya Dobin a fait un très bon tableau sur les valeurs échangées pour des All-Stars pérennes, donc les joueurs qui ont fait les trois derniers All-Stars chaque fois. On voit qu'au début des années 2000, on est sur un tour de draft, deux tours de draft, trois Jimmy Butler, Paramini pour, à l'époque, un seul tour de draft. C'est des joueurs très souvent qu'on échange, on n'échange pas des tours de draft. Et puis, boum, 2019, Paul George, 7 tours de draft. Et là, depuis, c'est un peu devenu la norme. Je sais pas, Tom, Amine, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est... Maintenant, je l'ai un peu mis sur Twitter de manière, je sais pas, provocatrice. Est-ce qu'il faut, quand on est une équipe moyenne, mettre autant pour s'assurer de passer un tour, voire plus? C'est devenu le nouveau prix?
Je pense que les équipes sont plus enclines à lâcher plus de choses parce qu'elles se disent qu'elles pourront retransférer le joueur derrière si ça va pas. Je pense que c'est plus ça, en fait, qui change dans la valeur des tours de draft. Et puis là, on est sur des franchises qui, les franchises qui ont fait ces moves-là, ce sont pas des franchises qui attirent grand monde quand elles ont du cap space. Donc elles se disent que, bah, de toute façon, là, on a un haut choix de draft. On a un haut choix de draft qui a bien fonctionné, hein, qui on croit. Et je pense qu'il y a aussi l'autre chose qui a changé, c'est que les équipes, la plupart des équipes ne pensent plus au troisième contrat, en fait. Elles veulent essayer de gagner pendant le deuxième contrat du joueur, parce qu'elles se disent que dans le troisième contrat, la fin du deuxième contrat, faut que j'ai assez d'éléments pour savoir est-ce que je retransfère mon joueur pour récupérer ce que j'ai lâché en pick de draft, ou est-ce que je continue, j'ai une équipe assez forte pour répondre aux objectifs que je me suis fixé. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit peut-être une accélération de certains projets en se disant, bah, tu vois, les Dallas, ils ont fait un peu pareil avec Doncic, où ils ont essayé de mettre des joueurs, peut-être des joueurs un peu à jouer, fonder une équipe très vite, parce qu'ils se sont rendu compte que ce gars-là, ce contrat rookie, il est très fort. Peut-être que, à la fin de son deuxième contrat, il restera pas. Alors, il y a aucun signe, hein, de ça. Hein. Peut-être à la fin de son deuxième contrat, il restera pas. Donc, il faut qu'on essaie de gagner sur les 7 premières années de son contrat NBA. Donc, est-ce que tu vas plus tout faire pour être bon dès la troisième année qui t'a dilapidé le futur, dès la troisième année et dilapidé le futur, ou est-ce que tu veux faire un truc un peu ascendant, ou c'est à partir de la cinquième année que tu mises, sauf que c'est peut-être déjà trop tard?
Je vais te lancer sur ça, Amine, justement, parce que tu voulais nous en parler. J'ai noté la petite phrase, tu nous as dit dans la première partie, on croit vraiment en Mobley. Et justement, on voit que, comme on en parlait avant de commencer, les moves pour des jeunes joueurs à potentiel, on fait les moves de plus en plus tôt dans leur progression NBA.
C'est ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû réellement, si c'est dû vraiment au fait de savoir qu'on détient une pépite, ou la peur récente de voir assez vite des jeunes pépites en avoir marre, en fait, d'être mauvais. Mais en tout cas, il y a une volonté chez les équipes qui semblent avoir déniché le talent, de vouloir tout de suite les entourer pour au moins ne pas les frustrer, je pense. Tout de suite être compétitif. Et en vérité, faire des playoffs, c'est de l'expérience, c'est de l'XP, ça permet d'avancer. Toute l'équipe auto avance et on se construit plus intelligemment comme ça, plutôt qu'en se battant pour le play-in tous les ans et en essayant d'obtenir quelque chose. Donc je pense que l'idée, c'est que effectivement Atlanta, on voit qu'ils croient beaucoup en Trae Young, Cleveland croit en Mitchell, croit en Garland, croit en Mobley. Minnesota, ils ont eu l'arrivée d'Anthony Edwards, qui a changé beaucoup de choses aussi dans leur esprit. Dallas, c'est ce qu'ils ont essayé de faire au début, en ajoutant Porzingis très très vite à Doncic. Ça n'a pas marché, mais n'empêche que c'était l'idée. On a vraiment l'impression que, pareil avec Zion cette année, avec l'arrivée de McCollum, même si Zion ne jouait pas, mine de rien, ils ont fait le move pour McCollum parce qu'il fallait tout de suite arrêter d'être mauvais et ajouter à Ingram et à Zion un joueur capable d'améliorer l'équipe. On a l'impression que les general managers veulent bouger très vite pour essayer d'obtenir les pièces qui manquent pour être au moins compétitif.
Ça amène beaucoup de questions.
C'est peut-être aussi le côté égoïste des general managers, c'est-à-dire que parfois tu veux trop prévoir le futur et quand le futur arrive, t'es plus là.
Ouais.
Ça me fait penser, moi, à plusieurs choses. Alors la première, qu'il faudra peut-être aborder dans d'autres podcasts, mais ça pose beaucoup de questions du coup sur les deux ou trois premières années du joueur en question, parce que si tu veux être capable de se faire ce coup d'accélérateur, faut l'avoir placé dans un environnement sain pour pouvoir l'évaluer. Ça donc remet en question certaines reconstructions assez agressives. Mais moi, ça m'amène surtout à penser, les gars, cette fameuse fusée en trois temps. Donc, tu construis, enfin, tu reconstruis. Ensuite, t'as la période où tu commences à devenir bon et ensuite, t'es vraiment bon. La deuxième phase, elle se raccourcit de plus en plus parce que Cleveland, il y a un an, en gros, il y a un an, on fait nos previews en se disant, est-ce qu'ils ont vraiment leur précieux? On se rend compte qu'ils ont un double précieux, Garland, Mobley, boum, on est agressif. Mini, il y a un an, on se dit, où est-ce qu'on va? Boum, on fait une bonne saison, on voit que Edward Stans, ça peut être dominant, on fait Gobert. Bon, les Hawks se font un an trop tard, mais il y a cette fameuse saison, ils explosent, ils vont en finale de conf. Il y a un an maintenant, les gars, c'est ça la nouvelle timeline?
Les Cavs, il y a un an, ils avaient un over-under à 26,5.
T'imagines? Et là, ils sont 11e pour le titre.
Ouais, c'est incroyable. Mais tu vois, on parle souvent dans la NBA le côté milieu, que les équipes n'aiment pas rester au milieu. Mais en fait, là, c'est même pas les équipes ne veulent pas rester au milieu, elles veulent pas aller au milieu. Et je pense que le truc... Non, mais c'est ça le truc, les équipes veulent sauter le milieu, tu vois. C'est même pas l'histoire de on veut pas rester au milieu pendant deux années VGT. Là, on veut vraiment sauter le milieu. Et le problème que ça cause, c'est que t'as des équipes qui essayent, ben, si tout le monde essaye de sauter le milieu, ben, le milieu, en fait, la zone du milieu augmente.
C'est ça.
La zone du milieu augmente par défaut. Et si, en haut de la ligue, ça baisse moins vite que la vitesse à laquelle les équipes qui sont en bas essayent de monter, ben t'as un embouteillage, tu vas avoir un embouteillage à un moment donné quelque part, tu vas avoir un goulot d'étranglement à un côté quelque part, et ce qui va se passer, c'est que des équipes qui ont fait des all-in vont se retrouver au milieu plus tôt, tout simplement parce que des équipes qui étaient plus basses, ben ont progressé trop vite par rapport à elles, pardon.
Un avis là-dessus, Amine?
Oui, bah, je suis totalement d'accord, en fait. C'est, d'ailleurs, on commence à voir, on le voit nous-mêmes très rapidement, quand on voit justement, on s'imagine très facilement les Bulls, qui ont été une darling pendant 6 mois l'année dernière, se retrouver aux alentours des 6-7e places assez facilement, comme Atlanta la saison d'avant, qui avait terminé 5e ou 4e, 5e, et qui, cette année, ça surprenait presque personne, en fait, qu'il y ait comme les équipes progressent, ça descend de l'autre côté tout doucement. Et du coup, c'est une NBA qui bouge très vite. Le fait que certains fassent des trades et n'hésitent pas à tenter le coup, ça pousse peut-être d'autres aussi à le faire. Donc tout ça, c'est un cercle. On ne sait pas s'il est vicieux ou vertueux, mais en tout cas, c'est un cercle qui commence à se mettre en place. Et voilà.
Et c'est exactement ce qui est arrivé à Utah à l'Ouest.
Sachant que tu vois, Tom, déjà, on peut voir des all-in alors je sais pas dans ce groupe d'équipes là qui on peut catégoriser en all-in, mais quand on a fait notre power ranking à l'est très rapidement, Bulls, Celtics, Heat, Sixers, Nets, il y a une équipe qui a pas l'avantage du terrain dans les 5 là déjà. C'est toutes des équipes
qui perd au premier tour.
Il y a une équipe qui perd au premier tour. c'est des équipes qui ont beaucoup investi et qui pourraient déjà pas avoir retour sur investissement. Peut-être pour avancer, les gars, parce que j'en suis très fier, de ces trois équipes dont on a parlé aujourd'hui, pour moi, ce qui m'a choqué dès que j'ai vu le trade, enfin une heure après, c'est des équipes qui ont joué le play-in, en fait. Et je me suis dit, effet pervers du play-in, on s'était dit, le play-in, ça a comme vertu de rendre plus compétitifs les matchs de fin de saison avec les équipes 9, 10, 11 qui vont se battre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt comme l'a dit Tom, elles veulent sauter le milieu. Les équipes se sont dit très vite, non, on veut pas faire ce bidule, ce truc, on veut être top 6. Donc en fait, on investit pour être top 6 parce que c'est assez intéressant de voir que Mini a donc investi après avoir fait le play-in, Cleveland investi après avoir perdu au play-in après une saison régulière un peu qui avait été encourageante, qui les aurait amenés en play-off dans un ancien format. Atlanta a déjà goûté au play-in et s'est dit, alors non, on veut pas le revivre. Et puis si on remonte aux années d'avant, les Lakers le font après une saison régulière compliquée, ils arrivent à le passer, mais ils perdent en play-off, boum, ils font le trade Westbrook avec les résultats que ça a, Boston a bougé. Enfin, les équipes semblent vraiment prêtes à bouger pour
même
ça.
Même Memphis a changé totalement la façon dont son équipe était construite en faisant le trade de Valanciunas ou des choses comme ça. Et limite, tu peux te dire que les équipes qui n'ont pas bougé, c'est les équipes qui ont eu des renforts dans leur effectif. Par exemple, si on prend, par exemple, les Warriors n'ont pas bougé parce qu'ils savaient qu'ils allaient récupérer Klay Thompson. T'as les Pelicans cette année qui ont pas énormément bougé parce qu'ils savaient qu'ils allaient récupérer Zion. Donc au final, tout le monde bouge pour un peu éviter ce qui s'est passé avec les Clippers l'an dernier, enfin cette saison, enfin du moins à la fin de la saison, où t'as Paul George qui chope le Covid, protocole Covid pour ton deuxième match du play-in, tu te fais sortir, tu fais pas les playoffs. Non mais c'est la triste réalité, hein. C'est la triste réalité. Et t'as la même chose pour comment ça s'appelle, les Warriors l'an dernier, qui sont tout prêts de sortir les Lakers et qui se font sortir par Memphis juste après.
C'est parce que, alors on a peu de données pour l'instant, mais cette volonté de rendre plus compétitif les matchs pour 9, 10, 11, 12 peut-être, pour l'instant le 10 il est à 0-4, le 7 il est à 4-0 et c'est plutôt les 8-9 ou le 8 à 1 victoire et le 9-3 victoire. Donc à voir, mais pour moi je peux pas m'empêcher de penser que les équipes, et pour revenir un peu sur tout ce que vous avez dit, ça commence à faire pas beaucoup, hein, parce qu'être dans le top 6 de sa conf, il va falloir investir beaucoup, ouais, beaucoup pour y arriver.
Sinon, il n'y a que les Hornets qui n'ont pas bougé. On se demande pourquoi.
Les Hornets, ils aiment bien être 10. Ils aiment bien être 10 et faire une performance cataclysmique.
Ouais, mais ils vont reculer. Eux aussi, ils risquent de reculer.
Ouais, mais... On va peut-être finir du coup avec les dommages. Enfin, on a quelques petits trucs à finir rapidement avec les dommages collatéraux, comme les a appelés Tom. Alors lui, il doit plutôt sourire de cette situation-là. C'est Colin Sexton. La dernière fois qu'on a parlé des Cavs, on se demandait mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Colin Sexton. Il est envoyé à Utah, il a signé un beau contrat de 4 ans et 72 millions. Tom, c'est parfait. Enfin, parfait. Il aura des ballons. Bon retournement de situation pour lui.
Ouais, clairement, c'est vraiment le 360. Hein. Tu vois l'espèce de truc là dans Mario, tu prends la peau de banane, tu es fou. Ben, c'est exactement ça. Le gars, enfin, il était peut-être à deux doigts de prendre je crois que c'est Brian Windorf qui en parlait dans un de ses podcasts de collectif, qui disait que il y a une semaine avant, Colin Sexton, c'était la qualifying offer qu'il avait, quoi. Donc, de passer de 9 millions garantis à 72, bravo, monsieur. Bravo, monsieur.
Ouais, Amine, on peut se dire ça. C'est vrai que, après, cette équipe, on a décidé de pas trop parler d'Utah aujourd'hui, hein, pour se concentrer un peu sur les moves l'été, mais cette équipe d'Utah, alors, on souligne ce que fait Danny Ainge, mais en termes de joueurs, en termes de ballon, ça va être marrant quand même, parce qu'on a un paquet d'arrières qui veulent le ballon dans l'effectif.
Non, c'est clair. Bon, après, je pense que Sexton va celui qui va en avoir le plus normalement, mais effectivement, il y a Beasley qui est chez eux. C'est difficile même à lire, hein, l'effectif des Jazz avec tout ce qui est arrivé récemment, mais de toute façon, je pense que Utah, cette saison, ça va pas chercher à faire grand-chose à part à perdre des matchs. Hein. Donc, je pense que c'est le dernier de leurs problèmes que le partage de la gonfle soit compliqué. Et ils vont juste essayer de perdre des matchs. Et ça va très bien le faire, je pense, avec l'effectif qu'ils ont concocté. Wembanyama, peut-être.
Tank Commander. Ils ont de beaux Tank Commander avec THT et Nickel Alexander Walker.
Ah, Nickel Alexander Walker. Clarkson qui va peut-être partir. Malik Beasley. Ils ont donc Sexton maintenant. Ouais, sachant que Conley, peut-être ses jours sont comptés, on verra. Tom, je sais que tu voulais en parler. On appelait ça les pics à l'ouest, parce qu'encore une fois, un joueur va à l'est, et ça, je ne manquerai pas de le préciser, mais un des pics vont à l'ouest, Tom, et tu commences à parler d'un déséquilibre.
Bah, c'est ça, parce que quand tu regardes, on disait par exemple que la conférence ouest, c'est un peu compliqué. Alors oui, l'écart s'est certainement resserré entre l'est et l'ouest, mais quand tu regardes par exemple, même pour faire des classements aujourd'hui dans la conférence ouest, tu te dis que tout le monde joue jusqu'à Sacramento, et que tu écartes, si par exemple tu écartes San Antonio, OKC, Houston et maintenant Utah, tout le monde joue. Sauf que les quatre équipes que j'ai citées là, si tu rajoutes New Orleans, elles ont pléthore de picks pour les prochaines années à venir. Et du coup, je me dis que, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand ces équipes-là vont être prêtes au même moment, puisque j'imagine qu'elles vont être prêtes à gagner peut-être potentiellement au même moment à une, deux années près, et qu'elles vont cibler les mêmes profils, qu'est-ce qu'on aura comme type d'offre sur la table? Parce que, on a vu que, par exemple, l'offre des Knicks, pouvait potentiellement donner plus à Utah pour le transfert de Donovan Mitchell, sauf que ils pouvaient donner plus, mais comme ils avaient plus en magasin, ben Utah demandait, c'est-à-dire que plutôt que faire une offre brute, ils feraient une offre relative en fonction de ce que toi tu peux donner. Et je pense que par exemple, quand tu vas venir à la table et tu vas proposer 3 picks alors que t'en as 12, les gars vont te dire, non, ne nous prends pas au sérieux. Tu nous prends pas au sérieux. Et je pense que c'est un peu ce qui va se passer quand, si par exemple, je sais pas, moi, je dis un truc comme ça, peut-être si dans 3 ans, par exemple, Bam, ou, comment il s'appelle, peut-être, Jason Tatum, ou des gars comme ça. Je sais pas, moi, peut-être Jamorant, ou des gars comme ça, clairement. Ces gars-là, si un jour ils viennent à être disponibles et que ces équipes-là se battent pour ces joueurs-là, crois-moi que les offres que tu auras, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a là, tu vois. Parce que ces équipes-là ont amassé tellement de choses que tu vas pas pouvoir te ramener avec une offre normale. Et je pense que ça peut leur jouer des tours dans leurs négociations. Et c'est ce qui était arrivé à un moment affilié à Boston. C'est-à-dire que les picks qu'ils avaient beaucoup plus de valeur que les joueurs, qui voulaient acquérir avec ces picks-là. Donc. Soit tu perdais de la valeur du pic parce que le joueur ne valait pas forcément un pic, ou soit tu ne faisais pas le move tout simplement parce que tu estimais que le pic pouvait te rapporter plus. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de non-move en fait avec Danny Ainge, puisque la valeur des pics était trop importante pour les joueurs qui voulaient acquérir pour en renforcer l'équipe au moment où ils voulaient le faire.
Et tu te retrouves avec des situations à la RG Hunter où tu as aussi trop de pics pour l'effectif que du nombre de joueurs. Mais effectivement.
Ça aussi, c'est arrivé aussi à Philly où t'as tellement en fait de contrats rookies que t'as rien pour matcher. Ouais. Tu veux bien trader pour des mecs, mais t'as rien pour matcher. En fait, il te faut des joueurs pour envoyer des salaires contre des choses. Tu peux pas faire qu'ingérer des choses comme ça.
ça fait très football prix PSG Manchester City quoi. Il y a un prix pour il y a pas le même prix pour toutes les équipes. Bref. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus Amine. Moi je dis juste que on a souvent critiqué l'Est en termes de star power, mais quand on regarde dans notre DH20 entre c'est la difficulté cette année, les auditeurs vous nous l'avez déjà dit, cette année la difficulté c'est entre 13, 14 et 20, 25, où en fait c'est quasiment ça joue à un cheveu, et ben dans ce tiers-là, il y a un paquet de joueurs à l'Est en fait, hein. En particulier sur 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, moi j'ai beaucoup de joueurs de l'Est, donc ils ont peut-être pas encore le super star power, mais je trouve qu'en termes de deux, troisième option, bah, l'Est, avec ce qui s'est passé notamment cet été, bah, même un Jalen Brunson, c'est peut-être une classe en dessous, mais il se renforce, la conférence se renforce globalement.
Oui, je suis tout à fait d'accord. L'Est est de plus en plus fort. Les très bonnes équipes, à part, enfin, en fait, il y a Brooklyn, c'est à part, on sait pas trop. Disons que même Brooklyn, c'est plus ou moins renforcé, en vérité, quelques acquisitions intelligentes, Royce O'Neal, TJ Warren, tout ça, pour, dans le cas où KD et Kyrie restaient, et finalement, ça a l'air de se faire. Mais sinon, même les grosses écuries, comme Milwaukee qui va chercher Joe Ingles, je trouve que c'est très malin. Philly qui a fait un bon marché avec Melton, avec Tucker, avec House. Boston qui va aller chercher Brogdon, même si tout ça c'est du théorique, même les grosses cylindrées essayent d'être encore meilleures, celles qui sont en dessous essayent de s'améliorer pour être avec les grosses cylindrées, et du coup on a une conférence qui commence à être vraiment sérieuse face à la conférence Ouest actuellement.
C'est parce qu'on se pose, je pense, beaucoup de questions sur l'Ouest aussi. L'Ouest, Denver a l'air très fort. Denver, théoriquement, est très fort, mais on ne sait pas avec Denver. Les Clippers sont théoriquement très forts, mais on ne sait pas avec Denver. Les Warriors ont pris une année. Les Suns, la dernière fois qu'on les a vus, c'était un naufrage. Donc, il y a beaucoup de questions aussi sur l'Ouest. Le prochain Donovan Mitchell, les gars. Tom nous a posé cette question. C'est qui le prochain All-Star à être tradé?
C'est là où on se fait des
Allez,
ennemis.
Je vous donne mon choix. Moi j'ai dit le prochain. Alors, ça va être compliqué avec son contrat gargantuesque, mais Damien Lillard.
Ah, j'y crois pas.
Moi non plus.
Lui, j'y crois pas. Lui, j'y crois pas. Lui, j'y crois pas.
Pourquoi vous y croyez pas? Ça m'intéresse.
Lui, j'y crois pas. Déjà, c'est... ouais, enfin, il y a une partie du contrat. Je pense que les équipes... Parce que Damien Lillard, vu l'âge qu'il a... Je pense pas que, tu vois, une équipe qui est jeune et en reconstruction ira le chercher lui, tu vois, par rapport à l'âge, le contrat, la valeur. Même si sur le terrain Damien Lillard, c'est vraiment une valeur vraiment très très sûre, une valeur supérieure même surtout au poste auquel il est. Mais avec une jeune équipe, aller chercher.
Mais parce que dans la question, il fallait trouver une jeune équipe.
Ah non, mais c'est, enfin, quand si tu prends les équipes qui font les moves play-in et tout ça, enfin, quand si on reste sur les équipes qui font les moves pour aller chercher, après, si on se dit la prochaine équipe à déconstruire, c'est peut-être Portland. Oui, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être Portland. Mais je trouve que Lillard, par rapport à ce qu'il représente, je pense qu'il va rester peut-être quelques années encore. Je pense pas qu'ils l'échangeront comme ça.
Je suis de ton avis. Je pense même c'est un truc un peu d'impression. Que s'il avait dû partir, c'était là ces derniers temps, en fait. C'était le moment où il y avait le semblant de reconstruction à Portland, tout ça, et que c'était le moment où il devait partir. Et aussi, les équipes où il fait vraiment sens, Lillard, c'est des équipes qui ont plus grand-chose à envoyer, en fait. Pour moi, Lillard, s'il doit partir de Portland, lui, c'est vraiment la grosse équipe qui doit jouer le titre demain. Et c'est des équipes qui n'ont plus rien à envoyer, en fait. Elles ont quasiment toutes utilisé leur pick, leur payroll, elle est complète. Donc, pour moi, c'est pour ça que Lillard, ça me paraît pas si évident.
Bon, vous m'avez démonté. Bah, vous avez qui, du coup, là? Parce que vous vous moquez de mon choix. Mais...
Ah non, pas du tout. Moi, je pense à trois joueurs avec des... À chaque fois, il y a un cas particulier à chaque. Le premier, il va vous choquer, Anthony Davis. Si les Lakers font la même saison... Si les Lakers font la même saison, même si LeBron a re-signé... Je pense que
ça me choquerait pas.
Il pourrait potentiellement être disponible, enfin être rendu disponible. Hein. Je pense en deuxième joueur, peut-être Zach LaVine, mais peut-être dans un ou deux ans si jamais, parce que on va arriver à une période où il va falloir peut-être prolonger Vucevic Il y aura peut-être si DeMar DeRozan fait une saison un peu moins bonne que ce qu'il a fait la saison dernière, on peut peut-être voir le niveau en fait de cette équipe par rapport à l'ensemble, à l'échelle de la ligue, où ils seront un petit peu plus bas, et du coup les Bulls vont peut-être partir sur un processus où ils reconstruiraient avec ce qu'ils auraient récupéré par exemple pour Zach LaVine et comment il s'appelle, leur 3-4,
Pat Williams
du coup, qui partirait là-dessus. Et sinon, l'autre joueur que je vois, c'est Pascal Siakam. Je trouve que Pascal Siakam, je trouve que, enfin, le gars est super fort. Le gars est super fort. Ils sont dans une rotation ils sont à 3 pour jouer sur 2 postes. Vraiment avec OG Anunoby, qui est peut-être un des joueurs un des seuls joueurs qui a plus de valeur pour toutes les autres équipes de la ligue que pour l'équipe dans laquelle il est. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Donc
du coup, je me dis que peut-être Pascal Siakam, par exemple, si Pascal Siakam, il est All-NBA cette année, eh ben, il est éligible au Supermax. Est-ce que dans une équipe où t'as Scotty Barnes, ton précieux, qui joue sur le même poste, tu vas donner le Supermax à Siakam, sachant que Siakam, il a encore une bonne valeur et que c'est un joueur qui peut accompagner pas mal d'équipes qui seront un peu dans la zone, comme tu disais, Ben. Alors, tu vois, par exemple, Siakam à Memphis ou à Dallas, moi, ça me choquerait pas.
On va lancer Amine, j'avais pensé à Siakam, mais j'ai repensé au moment de mettre Siakam aux rumeurs comme quoi OG serait pas heureux de ouf à Toronto. Et je me suis dit qu'il pourrait
après,
peut-être...
Après, ça, on ne sait pas, tu vois.
Ouais, il pourrait peut-être sacrifier le role-player avant de sacrifier le All-NBA. Mais j'y ai pensé. Siakam, je pense qu'il est très haut dans la liste. Amine, du coup.
Moi, j'avais pas pensé à Siakam, mais je trouve que c'est une très bonne idée qui fait plus sens que celle que j'avais eue. Mais j'avais pas vraiment pensé à Siakam. En fait, le côté Scotty Barnes, même poste et tout, c'est vraiment quelque chose qui peut laisser vraiment imaginer ça. Et moi, j'avais pensé, je me convainc même pas moi-même, mais j'avais pensé à Booker quand même. Parce que je suis inquiet de l'avenir des Suns, en fait, à moyen terme. Et je pense que c'est possible qu'on soit dans la dernière année où on cherche vraiment à être contender et qu'après, ça risque d'être compliqué.
Donc une décision de Booker.
Oui, je me pose la question plutôt dans ce sens-là, plutôt que du côté des Suns. C'est-à-dire que Chris Paul va forcément continuer à être plus vieux et donc à être moins bon. Son contrat, il est toujours là. Ayton, on voit que c'est une histoire hyper compliquée. Franchement, les Suns, il y a 6 mois, on avait l'impression qu'ils avaient une autoroute pour être champion NBA. Et en 6 mois, on a l'impression que c'est plus sur la fin que vers le haut. Et je vois bien Booker demander le trade si ça tourne vraiment mal. C'est là où je me pose vraiment la question. C'est que je pense que Phoenix sera encore compétitif cette année et sera encore fort cette année. Donc peut-être que c'est un peu tôt pour l'instant. Mais je pense qu'une fois que cette période sera passée, ça peut aller vers le trade.
Eh bien,
question du coup pour vous. Question pour vous. Et si c'était Donovan Mitchell?
Alors non, parce que je crois pas au player tanking. La théorie de Ben Golliver, je ne crois pas aux joueurs qui, comment dire, s'il force sa sortie, il peut aller où après?
À New York. Knicks. Ouais, un peu comme James Harden, tu vois.
Ouais.
Je trouve
j'y crois pas. Hein, j'y crois pas non plus. Parce que j'y crois pas,
On est surpris partout, quoi.
Non. Après, par contre, de là à dire est-ce que Donovan Mitchell va signer son contrat d'après aux Cavs, ça va être un long débat. Mais je pense qu'il est là quand même pour 1 ou 2 ans. C'est en termes de presse, c'est compliqué de faire 2 fois le move pour un joueur.
Ah mais on a oublié les gars, on a oublié. C'est évident. C'est un mec des Nets. C'est évident. C'est soit Durant, soit Simon, soit Irving, je pense.
Ouais, mais eux, ils comptent pas parce que pour moi, Durant, il est à moitié encore dans le trade block, en fait. C'est-à-dire que quand l'explication, c'est un communiqué dans lequel le proprio inclut sa femme, moi, je ne crois pas à la résolution du conflit. Moi, pour moi, c'est toujours ouvert. Bref. Tom, t'as parlé des Knicks. On va conclure là-dessus, les gars. Est-ce qu'on tape pas un peu sur... Alors, les Knicks ont été moqués. Hein, vous avez même pas été capable d'avoir Mitchell alors que toutes les rumeurs depuis 2 mois l'envoyaient là-bas. Est-ce qu'ils ont pas eu raison, finalement, de pas surenchérir, les gars, selon vous? Allez, Amine, on te lance.
Moi, je suis. Oui, moi, je pense que. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il cherchait vraiment à faire, parce qu'on a entendu quand même que l'idée, c'était surtout de ne pas mettre Quentin Grimes. Et donc, si c'est juste ça, je sais pas s'ils ont eu raison. Mais en tout cas, le fit Mitchell-New York, surtout depuis qu'ils ont fait Brunson, me paraissait beaucoup plus compliqué que le fit à Cleveland. C'est-à-dire qu'à New York, t'as pas la raquette que t'as à Cleveland pour protéger un backcourt petit avec Brunson et Mitchell. En plus, okay, il n'y a aucun des deux qui aurait été gestionnaire. Donc moi, je n'ai jamais été emballé par l'idée, même si c'est Mitchell, c'est une superstar, c'est un joueur qui aurait porté New York. Mais après le deal Brunson, je n'étais pas emballé par le fait Mitchell à New York. Donc moi, je pense qu'ils s'en sortent bien pour l'instant et qu'il faudra aller chercher une autre star, vu qu'ils veulent une star.
C'est New York, c'est les stars, c'est Broadway. Tom, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'en fait, New York, ils avaient plus envie d'avoir Donovan Mitchell pour un package un peu cheap que d'avoir Donovan Mitchell. Et je pense que les fans de... Non, mais c'est vrai. Je pense que les fans de New York, ils sont plus rassurés. Enfin, je pense qu'ils avaient plus peur de surpayer pour Donovan Mitchell plus qu'ils avaient envie de l'avoir, en fait. Et à partir du moment où le budget rentre en compte, parce que, en fait, le truc avec les Knicks, c'est que c'est à double tranchant. Eux, ils se disent, ils font Mitchell pour pouvoir, après, aller chercher l'autre joueur. Donc, ça veut dire qu'ils doivent pas envoyer tous les assets pour Mitchell, parce qu'après, ils auraient plus rien pour choper l'autre joueur. Et de notre côté, t'as Utah qui dit, mais les gars, si on vous laisse des assets pour que vous alliez chercher d'autres joueurs, ben, au final, vos picks, ils vont ne servir à rien, puisque votre équipe sera plus forte. Donc, tu vois, c'est un peu un dialogue de sourds où tu te dis que, ben, c'était vraiment, je pense que c'était trop obvious pour que ce soit si évident que ça. Et en fait, je pense que, ils ont fait le meilleur choix. Donc là, retour peut-être à la draft, essayer de la progression organique des joueurs. Mais encore une fois, la problématique de cette équipe-là, c'est qu'ils ont des pics de draft, ils ont des jeunes, mais si tu vas te retrouver avec des vétérans qui jouent 30, 40 minutes.
C'est peut-être
la avec Obi Toppin 15 minutes, des choses comme ça. Alors que voilà, c'est ça, malheureusement, ce qui va se passer. Hein.
C'est peut-être la conclusion de cet épisode. On a beaucoup mis en avant ces recherches d'accélération, cette NBA qui devient de plus en plus binaire. Et au milieu de ça, les Knicks sont un peu dans le no man's land où ils n'ont pas une avalanche de choix de draft. Ils ont quelques jeunes joueurs, mais ils n'ont pas de pépites vraiment. Ils n'ont pas de collection d'assets, mais ce n'est pas une équipe qui joue vraiment l'avantage du terrain en play-in, par exemple. Ils sont un peu encore dans le no man's land. Et peut-être que les Knicks voulaient pas lâcher tout parce que Donovan Mitchell, sans l'assurance du deuxième joueur, c'était pas la certitude de sortir de Snowman's Land non plus, quoi, tout simplement. Eh bien, on arrive bientôt à l'heure et quart. On va conclure là-dessus. Amine, ton impression, est-ce qu'on a été trop méchant? Est-ce qu'on mange? Comment ça s'est passé?
Pas du tout, non. Un peu plus stressé au début qu'à la fin, mais ça s'est très bien passé et je suis vraiment très content.
Eh ben, c'était parfait pour nous aussi et c'était riche. Hein. On avait mis beaucoup de sujets d'angles à aborder, donc c'était assez riche. On vous invite, comme d'habitude, à nous faire des retours sur Twitter, sur YouTube, partout. Et puis, par adresse mail, je sais certains aiment bien faire le retour par adresse mail dunkhebdo@gmail.com. On vous rappelle également, pour ceux qui veulent participer, de remplir le DH20, le sondage est dans la description pour nous donner vos 20 meilleurs joueurs NBA. Eh bien, nous, on va taffer sur ça, justement, parce que nous aussi, notre DH20, on doit bientôt le rendre. On doit faire tous les calculs arithmétiques Excel de Tom. Et puis, on va se retrouver très, très vite pour vous donner le fameux classement et les previews aussi. La saison NBA se rapproche. On est très heureux. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Salut.
Salut. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.